C'est pas drôle tout ça. Si t'en as tous, on ne pas sur. Qu'est-ce que l'analyste peut faire? C'est monté, là, mais quand même, dans notre civilisation d'occidentée, comme dit Lacan, il dit bien que la ségrégation, on n'en a pas fini avec. Et il y a juste, si je vais voter, et même, je peux vous dire que ça ne fera jamais qu'à reprendre de plus belle, que rien ne peut fonctionner sans ça. Il n'existe rien sans la ségrégation. Alors, c'est une donnée à faire, plus faible. Alors voilà, je passe les questions à la salle, parce que c'est très dense. Effectivement, tu as fait un parcours assez complet dans ces dernières avant. Mais comment on va tout au long de l'année déplier, comme tu disais, les différentes ségrégations, qu'elles soient les ségrégations des sexes, les langues, ségrégation des racines de discours, les exils, les ségrégations choisies.
Il y a quand même une voie possible à coup sûr, à coup sûr, logiquement à coup sûr. On ne peut pas éliminer les ségrégations, on peut peut-être en choisir une contre l'autre.
Pour l'analyste, quel choix? Si on est dans des ségrégations intellectuelles, on a dit, en parlant de apartheid de l'IPA, mais enfin, nous restons dans le racisme du discours quand même, la ségrégation intellectuelle. On a parlé aussi de la folie, de cette ségrégation. On allait au psychiatre, il m'a dit, mais on se reprochera un jour d'avoir rien fait, d'avoir pas essayé de trouver un sens à la ségrégation. Donc, y a-t-il des questions dans la salle?
Mais je pensais en profiter justement. Bon, merci Colette. Merci d'avoir évoqué des sujets quand même brûlants, d'avoir osé parler des juifs tels qu'en parle Lacan, question qui est quand même rarement développée. Merci aussi de m'avoir parlé et d'avoir donné des éléments de réflexion sur ce qui se passe actuellement dans le monde et qui est en général présenté comme une régression à l'ordre ancien. La montée du nationalisme, des frontières, des murs, des fascistes, etc. Il y a tout un magnifique discours d'Obama en Afrique du Sud, pour les 100 ans de la naissance de Mandela, qui évoque ça très très bien. Vraiment un très beau discours. La seule erreur, à mon avis, c'est qu'il parle du retour à l'ordre ancien. Alors que Colette lui a montré que c'est un ordre nouveau.
C'est pas l'ordre ancien du tout. Pardon ? C'est pas l'ordre ancien. Je dis oui, en effet, t'as bien saisi, ce n'est pas l'ordre ancien.
Ça n'est pas l'ordre ancien, c'est les nationalismes, les replis protectionnistes, etc., sont effectivement des constructions de camps. Et ça, c'est, je trouve ça très limpide, la façon dont tu en as parlé. Et ça, c'est certainement un élément de réflexion novateur. Voilà, comme question, évidemment, j'ai la même que toi, parce que finalement, ta question entre l'intégration dissolvante et l'autoségrégation, c'est une question qu'on se pose quand même, tu l'as amenée progressivement, mais ce n'est pas une question qu'on se pose depuis ce soir.
Non.
Et donc, j'aimerais bien quand même que vous poussiez un peu des éléments de réponse de ce côté-là.
Pas ce soir, mais moi j'étais contente parce qu'en préparant ça, j'ai compris quelque chose. Il y avait très longtemps que j'avais lu, que j'avais vu que Lacan disait tant qu'on n'aura pas mis le Dieu des Juifs en question, quelque chose ne restera en suspens dans la psychanalyse, et je ne comprenais pas pourquoi. Là, j'ai aperçu, en tout cas sa construction, hein, le joint qu'il établit justement entre la création du dispositif et le mythe religieux de la création du monde. Donc ça, c'est important, parce que sinon, quand j'étais tombée sur ces phrases, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il nous prend quand même. Donc j'étais contente de cela. Ceci dit, effectivement, sur les problèmes de l'actualité, en tout cas, moi, mon option, c'est qu'il faut procéder par la logique quand même. La logique des possibles. C'est pour ça que l'exemple d'Obama, il est très intéressant, l'exemple d'Obama, même de ce qu'a fait Obama. C'est un champion des discours magnifiques. Hein, le premier discours, le dernier discours qu'il a fait là, mais des discours magnifiques. Quand même, il faut quand même tirer les conséquences. Qu'est-ce de ce que les discours magnifiques changent ? On cherche des discours qui soient principes d'action. Et donc, c'est pour ça que je dis, les comités d'experts, ils n'invoquent rien d'autre qu'un vague humanisme auquel chacun peut croire plus ou moins. Et j'insiste sur le fait que dans ce terrain, il y a beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi parce que tant qu'on est au niveau là où on parle, hein, donc, on peut dire on est pour la diversité. On est pour la diversité. Vous, moi, nous sommes pour la diversité, je suppose. Mais il y a des diversités qu'aucun d'entre nous n'est prêt à supporter. C'est certain. À supporter avec son corps. Pas avec, en regardant le cinéma. Et donc, là, il y a un os, hein, quand même. Oui.
Le micro.
Oui, merci Colette. Je trouve qu'il y a quelque chose que vous avez mis en relief et qui est intéressant, c'est que tous les discours sont ségrégatifs et sont ségrégatifs de une femme par une femme par une femme. Donc la femme en tant que telle est inabsorbable dans les discours. Et je me demande si justement la montée actuelle des femmes en tant que mouvement des femmes dans le monde, en tant que cette révolte de la moitié du ciel, comme on disait à l'époque, n'est pas quelque chose qui peut faire éclater un peu cette ségrégation capitaliste, en tous les cas, par la montée de qui n'est pas du discours, qui est de l'action, la montée des femmes.
Voilà. Oui, mais la réponse, c'est quand même l'intégrisme.
Oui.
Hein, où les femmes, c'est vraiment, on essaie de les carter.
Oui, ça c'est les hommes qui se révoltent.
Ah ben oui, mais je veux dire, c'est un duel.
Vous mettez un espoir dans...
Oui.
J'ai remarqué que vous étiez généralement très optimiste.
Oui.
Ça fait plaisir quand même d'entendre une voix optimiste. Oui. Et comme je l'ai fait remarquer lundi à Sainte-Anne, est-ce que vous n'êtes pas frappé que dans ce mouvement de libération de la parole des MeToo, elles disent toutes la même chose. Vous n'êtes pas frappé par ça. Il y a un os là quand même, il y a un petit truc qui... Non, ça ne vous frappe pas. Ben, moi, ça me frappe. Oui, il y a en mes paroles, plusieurs mains levées.
C'est juste qu'effectivement, je pense que l'effet est plutôt inverse. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se demander si l'augmentation des nationalismes n'est pas l'effet justement de la parole des femmes.
On va leur mettre ça sur le dos en plus.
C'est-à-dire, ce qu'on peut constater, c'est que les deux sont synchrones.
Oui.
Du coup, on se demande.
De toute façon, dès qu'on crée deux bords, on fabrique une ségrégation ou on maçonne une ségrégation. Donc plus il y aura de MeToo et plus il y aura de l'autre côté de méchants garçons. Et ça fera valoir dehors. Ceci, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'abus. Hein. Je veux bien qu'il y ait des abus. Et il faut bien voir que ce qui se fait dans un mouvement comme ça, c'est quand même une collectivisation d'un seul message dans des bouches multiples. Enfin, il n'y a pas photo là. La singularité à laquelle on a affaire dans l'analyse est complètement éradiquée. Vous n'entendez jamais deux femmes parler pareil sur un divan, ça n'existe pas. Hein? Bon, alors, je crois qu'il y avait Patrick qui voulait dire quelque chose.
Moi, j'ai justement des micros. Bah, c'est tant mieux. Alors, effectivement, pendant très longtemps, j'ai eu une notion un peu péjorative de la ségrégation. Je me disais que c'était une saloperie. Or, j'ai trouvé dans un passage de Lacan, ça m'a surpris, qui parlait de certaines ségrégations positives. Et alors, dans une école, par exemple, ici, la nôtre, il y a une ségrégation positive dans la nomination des AE, mais il y a une ségrégation arbitraire dans la nomination des AME. C'est une question que je me pose actuellement.
Ah, voilà une thèse d'école.
Ici, dans notre école.
Un peu inédite.
Comment ?
Non, je dis c'est une thèse d'école inédite, ça.
C'est quoi une ?
Une thèse sur l'école qui est inédite.
Non, c'est une réflexion que je me fais parce que... Ouais. Je me pose cette question-là, c'est tout. Je ne sais pas si c'est bien dit ou si c'est comme ça que ça doit se prendre. Et voilà.
Et pourquoi il y aurait une ségrégation positive dans
Parce que les AE, c'est une ségrégation positive, démontrée, logique. On pense que c'est logique, c'est un travail qui a été... Ça a été élaboré, ça a été soutenu par celui qui sera nommé AE, donc quelque chose de cet ordre-là. Et la ségrégation arbitraire, c'est celle des AME, parce qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas tellement d'éléments pour... On en a même pas... Très peu, même pas du tout, à la limite. Oui. Ça relève presque du copinage, à la limite. Oui. Moi, je dis ça comme ça, un peu vite, mais... Ouais. Mais c'est un peu comme ça, quand même. Voilà.
Lacan a fait comment peut-on dire qu'on est frère, même quand on est frère dans une même famille? Parce qu'on a des chromosomes différents et que la fraternité, c'est vraiment le terme le plus proche de la ségrégation. Donc il associe avec la liberté et l'égalité. La liberté, il va du côté de la folie, puisque c'est depuis la Révolution française qu'il explique que. On a ségrégué la folie au nom de la liberté. Donc, voilà. Donc, déjà, ce thème de base, les frères, ça n'existe pas, c'est déjà la singularité. En tout cas, c'est un fondement.
Il faudrait réfléchir sur le thème de positiver la ségrégation. Parce que c'est vrai que on l'aborde sur son versant négatif, parce que c'est ce versant qui s'impose de plus en plus dans la réalité, etc. Mais déjà, quand on parle de ségrégation choisie, ça c'est un fait, il y a des ségrégations choisies. On se barricade dans un quartier et pas dans un autre. Bon, ça c'est choisi. On met ses enfants dans une école et pas dans une autre. Ça c'est choisi. Bon. Donc déjà, en parlant de ségrégation choisie, on comprend que dans les esprits, il peut y avoir, dans certains cas, dans certains contextes, une positivation de la ségrégation. Ce serait à réfléchir et à creuser ça.
C'est le choix de l'Afrique du Sud après Mandela, au niveau de l'action, aussi bien aux États-Unis après Luther King qu'en Afrique du Sud après Mandela. Il y a eu l'option de la ségrégation positive à l'université.
Oui.
Prenant le principe de privilégier
oui, oui.
les Noirs ou les Métis. Ça a permis, en tout cas.
Ça, c'est pas la ségrégation, c'est la discrimination. Je n'ai pas parlé de ça. Il faudrait
le terme courant, oui, c'est ségrégation, oui. Vous avez raison.
Il faudrait distinguer ces deux termes qui sont assez voisins, oui. qui ont des connotations communes, mais qui sont quand même différents. Hein. On peut discriminer sans ségréguer.
Ça répondait à une ségrégation. Oui. C'est parce oui. que ça oui, répondait ça. À une oui, ségrégation oui. raciale. Oui.
On pourrait voir, par exemple, dans le nazisme, une ségrégation décidée, dans le silence de la France, une ségrégation consentie. Consenti, c'est-à-dire passif. Et on est entraîné là-dedans de force.
Oui, oui.
On n'a pas le choix au niveau individuel, très peu de choix. Hein, très peu de choix.
Des questions ?
Alors, que dirait-on de la thèse de Lacan ? Pardon. Non, je ne suis pas indispensable.
Bah, attendre, juste.
Allez-y, je dirais.
Oui, je voudrais volontiers demander, Colette.
Vous l'allumez.
Ah, et puis sur le rouge en bas. Je vous aurais volontiers demandé de reprendre, peut-être de développer un petit peu. Que vous disiez sur cette autre forme de ségrégation, la ségrégation par la nature des mots. Je ne sais pas si vous l'avez appelée ségrégation due à la structure du langage, celle des femmes.
Oui.
Les femmes toujours exclues par la nature des choses, qui est la nature des mots. Parce que.
Qui est la nature des mots.
Qui est la nature des mots, oui. La part encore que vous avez citée, oui. Parce que vers la fin de votre intervention, il m'a semblé, mais je ne retrouve plus là dans ma tête ce que vous avez dit, qui m'a fait penser, mais Colette a peut-être l'idée que le salut viendrait par ces femmes ségrégées. Mais donc je ne veux pas. Je rejoins peut-être sans le vouloir, en le voulant. L'optimisme de Jacques Roussy, mais il m'a semblé qu'il y avait des petits accents dans ce que vous disiez.
Des fois, des
voilà.
fois.
Voilà.
Alors, sur ce point, je n'ai pas touché à ce point-là ce soir, je crois. J'ai développé quelque chose dans mon cours là-dessus, brièvement. Et c'est la question de savoir. Est-ce que l'autre, hors discours, si on suit le terme de Lacan, peut être au principe d'une sublimation civilisationnelle? Alors, oui, c'est une question. Et cette question renvoie à qu'est-ce qui est au principe des processus créateurs individuels? Question. question qui n'a pas de réponse univoque, et j'ai pas élaboré une réponse univoque sur ce point, bien sûr, mais dans la mesure où on a quand même l'idée, enfin j'ai une idée, et Lacan avait l'idée, il nous l'a transmise dès le début, que la rencontre avec un réel quel qu'il soit, ineffable, pousse au mot. Hein? La chose fait mot. C'est une phrase très du début de l'enseignement de Lacan. Donc, dans la mesure où on a cette thèse, et il faut la soumettre à l'examen, cas par cas, la thèse, mais dans la mesure où un réel fait loi et où l'autre grand A, c'est un réel, hein, c'est logiquement que je me pose la question, est-ce que ce réel-là ne pourrait pas être au principe d'un pouce vers une création sublimatoire. Bon, c'est une question. Mais je n'en ai pas parlé ce soir. Par contre, ce que j'allais dire, c'était en écho à ce que disait Patrick quand il évoquait la ségrégation volontaire et décidée des nazis et du côté de la France participatrice consentie, au fond. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que vous pensez chacun, de la thèse de Lacan, qui se trouve à la fin du séminaire 11. Quand Lacan dit que ce consentement passif, il en donne une interprétation. Il dit on est prêt à sacrifier au dieu obscur, hein, pour rejoindre le désir du dieu obscur, on est prêt à fabriquer une victime sacrificatoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Je vous pose la question. Hein? Parce que c'est vraiment la question du...
Je pense qu'il y a une phrase qui passe au bout. Quand l'homme est un loup pour l'homme, on peut considérer que tous les comportements humains sont humains. C'est terrible de dire ça.
Tous les comportements humains.
Même les pires saloperies, c'est humain.
Ah ben oui, bien sûr. Ça, c'est sûr.
Les salauds ont le droit de vivre encore.
C'est
plus. Voilà.
Oui. Vous n'avez pas d'idée sur la thèse de Lacan? Ben moi, elle ne m'a jamais convaincue, voyez. C'est pas parce que Lacan l'a dit. Je trouve que ça nous met quand même très loin de la causalité. Si on peut employer le terme de causalité, de la causalité de cette complicité. Parce que quand même, le référé à chacun voudrait satisfaire le dieu obscur. Mais attendez, est-ce que chacun a un dieu obscur?
Oui, la réjouissance. C'est aussi de la réjouissance.
La lâcheté n'est pas... C'est une façon de relever la lâcheté, quand même. Moi, je suis plus méchante que ça, vous voyez, sur ce point. C'est une façon, de donner une interprétation de la lâcheté qui la réfère au rapport au grand autre. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Chacun a son grand autre. Et donc, si on a un grand autre qui nous fait bien trembler, ben, on est quand même bien excusé.
On ne va pas quand même lui sacrifier ce qu'on aime, on préfère lui sacrifier ce qu'on n'aime pas.
Donc moi, je suis chiffonnée par cette thèse-là. Alors évidemment, c'est une façon de dire humain trop humain. Humain trop humain, ok,
j'ai un peu. Il évoque aussi Freud, enfin Lacan évoque aussi quelque chose que je trouve très émouvant d'ailleurs, quand il parle de l'homme moderne. qui, dans la pire des galères, comme ça, propose justement de nos statuts, d'avoir pas de lien social, qui dit que nous recueillons, qui vient nous voir et que nous recueillons dans une fraternité discrète à la mesure de laquelle nous sommes toujours trop inégaux. Donc, il est sur un autre versant. Là,
oui,
il parlait. L'autre, il peut être accueilli dans une fraternité discrète.
Dans le même texte, il parlait même de victimes innocentes.
Oui.
Excusez-moi. C'était fonction et champ de la parole et du langage.
Oui.
Attention.
Excusez-moi. Quand
oui.
Vous parlez de.
Attendez, vous ne voulez pas attendre le
micro.
Non, pas c'est enregistré.
Ah, oui. Sur le micro.
Oui, le micro.
Il y en a là.
Il y en a deux.
Quand vous parlez du consentement passif, je pensais au procès d'Eichmann et avec ce que Anna Arendt pouvait dire de la banalité du mal. Et est-ce qu'on peut faire ce lien-là ou, enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez ?
De quoi ?
De par rapport à ce procès de Eichmann, c'est vrai que effectivement, quand on voyait cet homme-là, il a consenti à quelque chose et en même temps, à aucun moment, il y avait une once de culpabilité ou pour lui, c'était, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que est-ce qu'il y avait vraiment un consentement passif, est-ce que c'était autre chose, est-ce que de quoi il s'agit là pour le toute une masse qui suit.
Le problème, si vous voulez, de ce procès à Eichmann et de tous les procès homologues, c'est que là aussi, ils disent tous la même chose. On a obéi aux ordres. Donc, on a obéi aux ordres. Et alors, la question, c'est quand même, est-ce que c'est un propos de procès? C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vivent, ils jouent leur vie, ils jouent le procès, et à quoi ils vont être condamnés. Est-ce que c'est un thème de plaidoirie? On a obéi aux ordres? Ou est-ce qu'au niveau intime, le sujet pense qu'il a obéi aux ordres et qu'il n'avait aucun choix? Et c'est très difficile de trancher ça parce qu'on est dans le cadre d'un procès. Un procès, c'est pas un lieu où on dit la vérité. On jure de la dire, justement parce que celui qui se défend, on sait qu'il va pas la dire. Donc, moi, je n'ai pas d'interprétation particulière là-dessus. Est-ce que Eichmann se prenait pour un innocent ou pas ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, il est objectivement coupable, ça c'est sûr. Il est coupable de ses actes. Au-delà, subjectivement, j'ai rien à dire, là, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je dis?
Bah, même oui. C'est quand même toute une masse qui va vers. C'est quand même au-delà du procès. C'est toute une masse ici de quand même.
Ah ben non, toute une
fête.
Il y a beaucoup qui ont activement travaillé à l'extermination, c'est le Eichmann, et il y a une masse de population qui a fermé les yeux, qui habitait à côté du camp, qui ne sentait pas la fumée, mais qui n'étaient pas des agents actifs. Donc c'est pas le même problème. C'est pas le même problème, je crois.
Moi, je pense qu'il faut que les analystes s'intéressent au discours juridique et aux travaux de Pierre Legendre, parce que là, il dit que toutes nos institutions, ça, il a fait un travail très considérable,
je ne peux pas le nier,
il dit que toutes nos institutions dérivent du droit romano-canonique, avec des conséquences très importantes sur le plan de l'organisation sociale. Donc, il n'a pas été entendu. Je trouvais que ça manquait dans ce que vous disiez.
Oui. Oui, c'est parce
que... Il faut le juridique pour trancher à un moment donné, parce que les autres discours, c'est de la morale, c'est je ne sais pas quoi.
Alors j'ai une petite insuffisance côté juridique.
Non, mais c'est vrai.
Ça, c'est sûr. Bah, on ne peut pas tout faire à la fois.
C'est important que dans une institution analytique, une école, on se penche un peu sur le juridique. Parce qu'il se passe des choses des fois qui sont un peu les joueurs.
Ah oui, c'est d'ailleurs d'actualité.
Hein?
C'est d'actualité.
Eh oui.
Bon,
il n'y a pas de Colette, je voulais poser une question. Enfin, est-ce que on pourrait dire le langage est ségrégatif? Ségrégatif. Le langage. Et en même temps, suivant le fil de l'exposé, la référence au père est une forme principe de ségrégation.
Oui.
Et alors, ma question, c'est, enfin, parce que tu as évoqué un contrepoids à ça, le dispositif, enfin, qu'est-ce qui se passe, enfin,
contrepoids à quoi?
Ben, contre le... Disons, là où cette forme de ségrégation généralisée est traitée autrement, enfin, si j'ai bien compris, c'était un peu le dispositif analytique.
Ah.
Comment la ségrégation, enfin, qu'est-ce qui se passe avec la ségrégation, disons, après une traversée du dispositif analytique, est-ce qu'il y a un traitement à ça?
Il y a beaucoup de questions dans ce que tu dis là. Alors laquelle on prend?
Juste un mot. Dans l'histoire Eichmann, il y a le point de vue de Hannah Arendt.
Oui. Et
l'idée d'Hannah Arendt, c'est justement c'est un point de vue. En quelque sorte intime de Eichmann. En tout cas, elle le traite comme ça. Elle ne le traite pas comme la réponse du procès.
Je
voulais juste préciser ce point.
Oui, mais je pense qu'elle va au-delà de ce qu'on peut attester avec ça.
D'accord, mais je...
Il y a un autre point.
Ah oui, comme ça,
la bête. Il y a un autre point qui me pose question. Comment se fait-il que les gens font de l'analyse et que dans une école, on les pousse à aller chercher la destitution subjective pour pouvoir être nommé à eux un jour? C'est vrai, le dispositif de la passe, c'est un dispositif d'appréhension de la destitution subjective de la vie. C'est à ce moment-là que l'école intervient pour le sanctionner d'être à eux. Il est sanctionné à eux.
Eh bien.
Il est destitué de sa vie. Là, c'est une ségrégation, ça. C'est suicidaire, un peu, quand même.
C'est une réinstitution du destitué.
Comment?
Une nomination, c'est une réinstitution d'un supposé destitué.
C'est pas la restitution de son identité, civile. La restitution du sujet dans la fin de vie.
Bien sûr.
Mène à la passe, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a pas beaucoup de sociétés humaines, et même on est peut-être les seuls à encourager ça.
Quand même, il ne faut pas laisser passer la thèse de Lacan. Le capitalisme destitue le sujet bien autrement que la psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est une destitution faible hein, par rapport à celle du capitalisme. Donc, c'est pas quand même le propre de la psychanalyse, en fait. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on pousse le sujet à la destitution. Qui pousserait? C'est le travail analysant qui évolue vers la destitution. Hein. Donc, il n'y a pas de pouce à la destitution. Mais il y a la thèse de Lacan, c'est que sans ce virage-là, pas de désir de l'analyste possible. Ça, c'est la thèse forte. Alors c'est pour ça finalement qu'il a inventé la passe. C'était pas pour promouvoir les
analyses. C'est ça que je dis. Il n'encourageait pas les gens à faire des analyses. Mais il ne le reprochait pas la faire non plus.
Alors là, il faut que je revienne à la question de Radu. Ou aux questions de Radu, qu'est-ce que vous demandiez? Dites-moi une question.
Si le langage est négatif, enfin ça, c'est Barthes qui me faisait penser à ça, il disait le langage est fasciste. Donc, quel traitement à cette forme universelle et généralisée de ségrégation avec la psychanalyse?
Mais si c'est le langage qui conditionne les ségrégations, c'est pas le langage qui est ségrégatif. Il n'y a pas de ségrégation possible sans le langage. Et c'est la structure du langage, les impossibles, les nécessités du langage qui opèrent et qui conditionnent les ségrégations. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de sortir, de se trouver dans un état de société sans ségrégation. Après, on peut examiner s'il y en a des plus féroces, des plus dures, tu vois, mais on ne peut pas dire... plus de ségrégation. Et l'idée qu'il y aurait plus de ségrégation grâce à la psychanalyse, mais c'est du délire. Ça, ce serait du franc délire, si quelqu'un veut le dire. Parce que le discours analytique lui-même est ségrégé. C'est une pratique que tout le monde n'y entre pas, et Dieu sait que les analystes s'en plaignent.
C'est donc une nouvelle ségrégation.
Et donc, il y a une ségrégation par chaque discours et par l'analytique aussi. Alors, certainement que nous avons tendance à considérer que c'est la meilleure, que nous l'avons élue comme celle que nous aimons le plus, qui nous paraît la plus valide, etc. Et donc, ça ne veut pas dire que toutes les ségrégations se valent. Mais sortir du principe ségrégatif n'est pas pensable à cause de la distinction signifiante. C'est pour ça que la petite anecdote qui a l'air drôle de la ségrégation urinaire pose les bases de la thèse fondamentale de Lacan là-dessus. Alors, tu disais, ben, le Dieu des Juifs, mais Dieu des Juifs, sans le langage, il n'y aurait pas de Dieu des Juifs, voyons. C'est une configuration discursive qui inclut du langage, bien sûr.
Mais tu as bien dit que l'exclusion, elle est structurelle. Je vais terminer là-dessus. Parce que les structures, c'est-à-dire, bon, tu ne peux pas échapper.
Exclusion, ségrégation, oui, les femmes sont exclues, c'est... Il faudrait y voir. Oui.
Non, peut-être entre exclu et ségrégué, il y a une nuance. Parce que exclu, c'est hors de ce qui est clos. Et ségrégué, c'est faire un trou pour les guerres. C'est donc peut-être que... Je ne peux pas dire, mais peut-être que ça vaut la peine de,
est-ce que les deux vont
de
ensemble
travailler ça.
Ben on pourrait visualiser ça. Hein, les deux. Vous dessinez un cercle, il y a la ségrégation interne au cercle. Hein. Bon, dans le social, il y a les hommes et les femmes, il y a les MeToo, ceux qu'elles ciblent. Bon, c'est une ségrégation interne au cercle. Et puis, vous avez ceux qui sont hors du cercle. C'est une autre ségrégation.
Ils sont exclus.
Ils sont exclus. Oui, ce sont exclus. Mais c'est
sur, sur le MeToo, je trouve ça un peu dur, très franchement. Je n'aimerais pas trop, j'avoue, que ça s'étend dans le monde comme ça, que ce propos analytique, le MeToo, voilà. Je ne suis pas absolument enchantée, je dois dire, par ça, parce que je trouve que ce n'est pas forcément très bon pour la psychanalyse, c'est-à-dire que quand même... Beaucoup les intellectuelles femmes entendant ça prendraient une crise de nerfs, c'est peut-être pas la peine d'en faire des ennemis absolus. Donc j'avoue que moi, personnellement, je peux l'entendre, mais je trouve pas que c'est une thèse qui doit être absolument répétée, parce que je suis pas tout à fait d'accord quand même. Je trouve pas que chaque discours est exactement le même, parce que c'est, ça pourrait, je sais que tu ne le penses pas, hein, mais ça pourrait laisser croire. Hein, la formule pourrait laisser croire que tout ça, c'est kiff-kiff, hein, comme on dit. Hein, c'est pas tout à fait ça. Hein. Dans MeToo, il y a des femmes qui ont vraiment souffert terriblement, qui ont été violées avec armes, qui ont été saignées, enfin bon. Et puis, bien sûr, il y a des petites hystériques qui en rajoutent, et des délirantes qui inventent des viols par je ne sais qui. Mais je ne sais pas si c'est... En tout cas, peut-être on peut le dire entre nous, mais j'avoue que cette thèse circule, m'enchante pas exactement. Ben, la thèse du MeToo, hein, de point de vue un peu...
Tu ne voudrais pas voir circuler. Quelle est la thèse que
vous ne voudrez
pas voir
circuler? Elles disent toutes la même chose, comme MeToo. Hein, parce que...
Et quand elles disent MeToo, c'est un...
Mais tu as lu leur témoignage, je ne sais pas, tous ces mêmes.
Elles disent toutes la même formule.
D'accord. Bah, j'essaye de s'unir dans une formule, mais il ne faudrait pas alors qu'on laisse entendre que ça veut dire qu'elles disent toutes exactement la même chose. Elles se mettent sous le même signe, ça, oui.
Si on a une MeToo... Sur le divan, elle ne va pas dire la même chose que l'autre. C'est sûr.
Il n'y a pas que sur le divan, il y a aussi des films.
Même dans les témoignages. Oui, même
dans les
témoignages.
Toutes sortes de femmes qui parlent, qui pas seulement sur le divan, et que je ne crois pas qu'elles disent vraiment.
Non, mais tu cibles pas le même point. Bon.
Non, mais sans doute. Mais ouais. Tu peux, si tu veux, tu peux le. Peut-être.
Non, mais toute formule mise en commun fait mot d'ordre.
Voilà, mais c'est.
Il n'y a pas de photo là-dessus.
Voilà, mais peut-être, voilà, dit comme ça. Je pense que ça ne fait pas équivoque comme. Alors, ça mérite cette précision,
d'accord,
à mon avis.
D'accord.
Alors, Jacques, tu
veux. Oui, je veux dire, quand moi je parle du mouvement des femmes, je pense déjà aux suffragettes, je pense à tous ces mouvements historiques, oui, la force des femmes qui s'affirment depuis quelques dizaines et centaines d'années, c'est quand même autre chose que l'épiphénomène MeToo. C'est-à-dire, c'est quand même beaucoup plus profond, et l'égalité homme-femme qui se discute et qui se négocie et qui se combat, c'est quand même un phénomène qui, je trouve, fait partie des temps modernes et dans lequel il y a beaucoup à creuser, parce que je pense que la moitié du ciel, c'est le femme.
On devrait parler de Michel.
Ah oui, ça c'est un
personnage. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est tellement d'accord là-dessus.
Oui, mais vous mieux le droit des votes pour les femmes, c'est quand même très récent. Hein.
Comment?
Le droit des votes pour les femmes.
Vous vous rendez compte, le droit des votes, de quand ça date en France?
Mais si les femmes, c'était pas ce que c'était. Si les femmes, c'était pas ce que c'était. Oui, alors, on ne compterait toujours pas.
49,
oui. Si elle avait
eu une 49, on ne compterait pas. Non, mais vous voyez bien qu'il y a... Il y a une chose qu'il faudrait creuser, ou qu'il faudrait marquer une ligne de démarcation. Il y a les femmes dans la société. Les femmes dans la société ont commencé à lutter, et depuis longtemps. Hein. Et ça s'est accéléré après la science, il faut bien dire aussi. Ont commencé à lutter pour gagner leur place, une place dans la société, dans le travail, dans les arts,
dans les études.
Bon. Donc ça c'est certain que c'est une chose. Quand Lacan dit qu'il y a de femmes qui excluent, il ne parle pas de ça. Il parle du sexe. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être faudrait revenir, je vais passer un peu vite peut-être, il faut revenir à Freud, qui, lui, a accentué de façon quasi exclusive le lien de l'inconscient au sexe. Hein. Et donc, maintenant, on a tendance à noyer tout ça, il y a le social, il y a les luttes sociales, en principe, quand Lacan parle de l'autre grand vin, on est au niveau du sexe, on n'est pas au niveau de la place de chaque citoyenne dans la société.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites du choix de l'identité sexuée indépendant de l'anatomie? Moi, je ne comprends pas ce que tu vois, ça n'arrive pas.
Je vous expliquerai. Oui, parce que vous voyez, l'heure tourne.